Et maintenant, on est avec Marie-Ève qui va nous faire sa chronique sur les apatrides anonymes. Bonjour Marie-Ève, je te laisse le micro.
Merci beaucoup à vous deux. Au programme aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de la détention des personnes migrantes ici au Canada. Comme certains et certaines pouvaient le savoir, les personnes migrantes ici qui n'ont pas la citoyenneté canadienne peuvent être détenues de façon indéfinie, c'est-à-dire pour une durée indéterminée dans des prisons fédérales et provinciales, la plupart du temps parce que elles sont considérées soit comme posant un danger pour le public ou généralement aussi parce que on croit qu'il y a des risques qu'elles ne se présentent pas à la date prévue pour leur déportation si jamais leurs demandes ont été refusées. Le truc, c'est que les personnes qui ont la responsabilité de faire cette évaluation-là de risque, ce sont les agents de l'Agence des services frontaliers. Cette évaluation-là se fait une première fois, donc au moment de la mise en détention, où est-ce que les agents doivent remplir un formulaire qui est connu sous le nom de « Examen national des risques avant les détentions ». Et cet examen-là doit ensuite être fait tous les 2 mois. C'est entre autres sur ce formulaire-là, ben c'est en fait ce formulaire-là entre autres qui détermine dans quel type d'établissement carcéral la personne migrante va être détenue, parce qu'en classifiant le type de risque qu'elle est supposée représenter, soit risque élevé de moyen à faible, donc élevé à faible. Et mais on a appris dernièrement selon une enquête du Star qui a pas eu beaucoup d'études, qui n'a pas eu d'écho, en fait, dans les médias francophones. Moi, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Donc, c'est pour ça que je choisissais de vous en parler, entre autres, aujourd'hui. Donc, selon l'enquête du Star, il semblerait que les agents, en fait, de l'Agence des services frontaliers qui procèdent à ces examens-là n'ont pas du tout les qualifications pour procéder à de telles évaluations. Non seulement, c'est ce que tend à démontrer l'enquête du Star, mais même de l'aveu même de plusieurs agents de l'Agence des services frontaliers, eux-mêmes avouent qu'ils n'ont pas du tout les qualifications pour procéder à ces évaluations-là. Évidemment, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques parce que, comme je vous disais, non seulement c'est ce qui va déterminer si la personne va être placée dans un établissement carcéral à sécurité élevée, moyen ou faible, mais c'est aussi là qu'on note au dossier de la personne si elle a, par exemple, si elle souffre de maladie mentale, si elle prend des médications quelconques. Et évidemment, ben les agents de services frontaliers sont ni médecins, ne sont pas des professionnels de la santé, donc ça peut avoir des conséquences assez désastreuses. Dans leur enquête, le Star ont examiné plusieurs de ces formulaires-là, et parmi les irrégularités qui ont été relevées, on peut noter par exemple des sections clés entières qui sont pas remplies par les agents, des cases, admettons, où est-ce qu'on a une case non ou inconnue ou oui, ben des cases non et inconnue en même temps cochées pour la même question qui va toucher, disons, à la santé mentale et à la médication, mais également de très, très longs délais entre les périodes d'évaluation, c'est-à-dire des délais qui respectent pas la période des 60 jours. Comme je vous disais, alors que la décision du lieu de détention et de la longueur repose seulement sur ces formulaires-là. Eux, ils ont absolument aucune... les agents ont avoué que non seulement ils étaient incompétents, mais qu'en plus, ils ne reçoivent aucune formation sur la façon de remplir ces formulaires-là. Ils ont à peine un tutoriel à lire de 2 pages. Et après avoir lu ce tutoriel de 2 pages, ben il détermine en fait des décisions qui sont lourdes de conséquences pour à la fois pour la dignité, la sécurité et la vie de personnes qui sont en situation de migration. Au-delà de l'incompétence, les principaux problèmes que tout ça suscite, c'est que cette détention-là, en fait, les décisions de détention sont pas supervisées par aucun organisme et revues par aucun organisme. Et non seulement ça, mais il y a pas de possibilité pour les détenus de contester la décision qui a été prise à la suite sur la base des informations qui sont fournies dans le formulaire. Selon le Toronto Star, toujours, pas le Toronto Star, le Star tout court, il y a des centaines de personnes migrantes actuellement qui sont détenues au Canada dans des conditions qui sont prévues pour des détenus, disons, qui ont un passé criminel lourd, là, qui ont été reconnus coupables d'actes criminels sérieux, alors que bien souvent, ces personnes migrantes-là devraient en fait être détenus, placés dans des établissements soit à sécurité moyenne ou à sécurité minimum. Je vous rappelle que la plupart du temps, ces personnes migrantes-là aussi n'ont jamais été reconnues coupables d'aucun crime. Donc, c'est d'autant plus révoltant. Et ça a un effet sur le quotidien vraiment des personnes parce que dans les établissements carcérales à sécurité maximum, les détenus sont sujets à des fouilles à nu quotidiennes peuvent être détenus en cellule jusqu'à 18 ou 18 heures par jour, dépendamment s'il y a un lockdown ou pas dans la prison. Donc, je peux vous donner un exemple d'un cas dont on parle dans l'enquête du Star, Ibrahim Touré, un homme de 45 ans dont les autorités canadiennes ont refusé là, de lui accorder le statut de réfugié. Il a été détenu pendant 4 ans dans une prison à sécurité maximale avec les conditions sous des conditions dont je viens de nommer. Il a été détenu seulement, en fait, ce qui a déterminé son risque, c'est que il est détenu seulement parce que on pensait qu'il se présenterait pas à la date de sa déportation. Donc, il est pas vraiment considéré comme un danger. Puis, lui-même n'a jamais fait de prison auparavant. L'Agence des services frontaliers a justifié, semble-t-il, sa cote de risque élevée par le fait qu'il y a déjà eu une condamnation il y a 12 ans de ça pour de la vente de CD et de DVD piratés. Donc, il n'a jamais fait de prison et on s'entend que c'est pas un crime sévère. Là. Et si on regarde même la politique elle-même de l'Agence des services frontaliers, le cas de Touré vient en contradiction complète avec la politique de l'Agence des services frontaliers parce que sa politique définit le risque élevé comme étant doit s'appliquer à une personne qui a été condamnée pour un crime sérieux, qui a des antécédents de violence ou qui pose de sérieux risques d'évasion de sa détention. Puis si on regarde la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, elle a défini le crime sérieux par une condamnation criminelle entraînant une peine maximale de prison de 10 ans. Et quant au risque moyen, c'est tout ce qui rentre dans les crimes non violents. Donc voilà, donc on se retrouve dans une situation où il y a plein de personnes en fait qui se retrouvent avec des détenus qui posent dans un milieu de détention qui est souvent très très violent. Ce sont souvent des personnes qui elles-mêmes fuient des situations de violence dans leur propre pays. Donc et on prend pas en considération si les personnes souffrent de santé mentale ou pas. Donc c'est assez ça craint quoi. Je vous amène ensuite ailleurs, sur un autre continent complètement. Bon, on le sait, même si supposément l'esclavage a été aboli il y a belle lurette, ça existe encore en 2017. On n'a qu'à penser au système carcéral aux États-Unis, où des millions de détenus sont forcés de travailler quotidiennement pour aussi peu que 1$ par jour. Là où ça peut quand même nous faire sourciller ou ce qui peut nous surprendre, c'est l'idée d'un véritable marché d'esclaves. Ça existe bel et bien. Il y a l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, qui a sorti un rapport ce mois-ci dans lequel ils font le constat que il y a un nombre croissant de personnes migrantes transitant par la Libye, qui sont vendus dans des marchés avant d'être soumis au travail forcé ou ou à l'exploitation sexuelle. Ces personnes-là, en moyenne, sont vendues entre 200 et 300 $ et elles sont ensuite retenues de force par leurs acheteurs, entre guillemets, de 2 à 3 mois en moyenne. Les personnes qui font l'objet de ces traitements-là et de cette traite-là, surtout, sont en général originaires soit du Nigeria, du Sénégal ou de la Gambie, et ils sont capturés alors qu'ils font la route vers le nord de la Syrie, d'où ils espèrent en fait rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée. La plupart vont être utilisés comme travailleurs journaliers, soit dans les secteurs de la construction ou de l'agriculture. Certains d'entre eux vont être rémunérés, mais la plupart vont être forcés de travailler sans salaire. Quant aux femmes, ben là, on n'en parle même pas. Évidemment, elles sont victimes de mauvais traitements, souvent de viols et souvent également à la prostitution forcée. Donc, c'est un joli tableau que l'Organisation internationale pour les migrations nous brosse. Rappelons que la Libye, c'est la principale porte d'entrée vers l'Europe pour les personnes migrantes qui viennent de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique en général. Alors, sur ces super nouvelles tellement pas déprimantes, je vais quand même passer à une meilleure nouvelle. Et je vous ramène au Québec cette fois-ci. Je vais vous parler des allocations pour la francisation des personnes migrantes ici au Québec. La situation actuellement, c'est que les personnes immigrantes qui apprennent le français dans des cours offerts par des commissions scolaires reçoivent pas toujours une allocation hebdomadaire. Puis ça, on parle de programme à temps plein, là. Pour ce qui est des travailleurs qualifiés et des réfugiés qui suivent un cours offert par un partenaire du ministère de l'Immigration, eux, actuellement, ils reçoivent 115 $ par semaine, voilà. Et pour ce qui est des personnes qui sont arrivées en vertu de la politique de regroupement familial, elles ne reçoivent que 30 $ par semaine pour les cours de francisation. C'est un peu supposé être des allocations, en fait, pour leur permettre de vivre un peu, là, parce que c'est pas évident à la fois si on parle pas français et si en plus on prend des cours de français à temps plein de trouver un travail. Donc l'idée, c'est de leur donner un coup de main, quoi. Mais donc la situation actuelle était vraiment égalitaire. Il y avait toutes sortes de cas de figure, dépendamment de son statut, dépendamment de la façon qu'on est arrivé au Québec, puis dépendamment aussi si on suit le cours dans une commission scolaire ou par un partenaire privé, disons, qui travaille avec le ministère de l'Immigration. Donc, l'idée, c'est de à la fois bonifier le gouvernement du Québec a annoncé qu'il bonifiait l'allocation. Puis l'idée aussi, c'est d'harmoniser les allocations, c'est-à-dire que tout le monde, peu importe à la fois le statut et la façon dont on est arrivé au Québec, bien, que tout le monde puisse avoir le même montant qui va passer là, à partir du mois d'août prochain pour une personne qui suit un cours de francisation à temps complet. Donc, l'allocation va passer à 140 $ par semaine, mais ça, c'est pour un maximum d'un an. Donc, voilà. Donc, c'est quand même une... Bon, ça fait quand même pas loin de 600 $ par mois de plus, fait que... au moins, comme le dit l'expression... les bottines suivent les babines. Le gouvernement du Québec qui arrête pas de dire que les immigrants parlent pas français, ils apprennent pas français. Bon, ben c'est sûr que s'il y a pas un programme de francisation qui a de l'allure qui suit, ou s'il y a aucune aide financière pour les personnes qui veulent suivre un cours de francisation, ben ça aide pas. Fait qu'au moins un pas de fait dans la bonne direction. Et je terminerai en vous annonçant, en faisant une petite annonce pour ceux et celles que ça intéresse. Ce samedi, le 29 avril, il y a un événement culturel et politique qui s'appelle Hip Hop contre les frontières. Ça aura lieu donc ce samedi, le 29 avril, à 14h, au Café L'Artère. C'est au 7000 Avenue du Parc, donc près du métro Parc. C'est un événement qui est gratuit. Il y a également des services de garderie gratuits pour les parents qui en auraient besoin. Et il y aura de tout, de la musique live, concours de rap et une chance de fraterniser et de se solidariser entre nous. Alors voilà, c'est ce qui clôt cette semaine la chronique des apatrides anonymes. Et on vous retrouvera dans 2 semaines sur les ondes de CKUT.
Merci Marie-Ève.